Il est 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Sporama, l'actualité sportive en Afrique et dans le reste du monde, c'est dans moins de 5 minutes et ce sera avec Jacques Aristide, Jean-Roger Billon à ce micro. Je vous propose tout d'abord un bulletin d'information. Au Nigeria, la dernière attaque attribuée aux islamistes de Boko Haram, qui a ciblé dimanche plusieurs églises du nord-est du pays, aurait fait plus de 50 morts. Au Nigeria, la dernière attaque, les assaillants qui circulaient à moto ont lancé des bombes dans les églises de Kwada, Ngurijina, Karagao et Kotikari pendant l'office du dimanche. En Afrique du Sud, reprise du procès d'Oscar Pistorius, les experts psychiatres ont conclu qu'il était en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'il a tué sa petite amie en 2013. Lionel Gaïma.
Le procès avait été ajourné pour donner le temps à des experts médicaux de voir si Oscar Pistorius jouissait de toutes ses facultés mentales. C'est chose faite. Le procureur Gary Nel a fait le résumé du rapport de 4 experts affirmant que M. Pistorius ne souffrait pas d'un trouble mental ou d'une infirmité qui l'aurait rendu pénalement irresponsable de l'acte dont il est accusé. Autrement dit, Oscar Pistorius est pénalement responsable. Accusé d'avoir consciemment tué sa compagne Riva Steenkamp, Pistorius a plaidé non coupable et assure qu'il croyait avoir tiré sur un intrus. S'il est reconnu coupable, le champion paralympique est passible de la prison à perpétuité ou à 25 ans ferme de réclusion.
La police et des témoins rapportent qu'une explosion s'est produite dans un marché de Mogadiscio, la capitale. On compte 2 morts et 7 blessés. La bombe était placée sous une pile d'ordures près d'un poste de police. Génocide rwandais, le général Augustin Bizumungu, ancien chef de l'armée rwandaise, écope de 30 ans de prison pour son implication dans le génocide de 1994. Le tribunal pénal international pour le Rwanda confirme la condamnation en appel. Et puis, République démocratique du Congo, c'est aujourd'hui la fête de l'indépendance du pays. Les forces armées ont organisé un défilé militaire inédit à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Irak, les combats ont continué aujourd'hui à Tikrit contre les militants de l'État islamique en Irak et au Levant qui viennent de proclamer le rétablissement du califat islamique dans les larges pans des territoires irakiens et syriens qu'ils ont conquis. Idrissa Seyloudia.
L'aviation irakienne a effectué des raids sur Tikrit pendant la nuit, poursuivant l'offensive que les forces gouvernementales ont lancée samedi pour chasser de la ville les insurgés. Selon un porte-parole officiel, l'armée irakienne a repris depuis hier soir le contrôle total de l'université de Tikrit et continue ses efforts pour libérer totalement la province et d'autres secteurs occupés par les djihadistes. Ces derniers ont dit que leur dirigeant, Abu Bakr al-Baghdadi, est aussi le leader du nouveau califat et ils ont demandé à tous les musulmans de faire acte d'allégeance. À noter que même les leaders d'Al-Qaïda, dont l'État islamique en Irak et au Levant est une émanation, avait au début de l'année désavoué al-Baghdadi et son mouvement.
En Syrie, des attaques de l'armée à Idlib dans le nord-ouest ont fait au moins 14 morts aujourd'hui. Ce bilan s'ajoute aux 27 personnes tuées hier dans cette même province. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres, le bilan serait de 15 morts, dont des enfants. La majorité de la province d'Idlib est contrôlée par les rebelles alors que son chef-lieu est tenu par le gouvernement. L'armée pakistanaise annonce le début d'une offensive terrestre contre les bastions des talibans. Cette nouvelle phase intervient après l'évacuation d'environ un demi-million d'habitants et 2 semaines de bombardements aériens dans le Waziristan Nord. Selon l'armée, des fouilles ont commencé de maison en maison dans la localité de Miran Shah à la recherche de militants opérant au Pakistan et en Afghanistan. Encore une décision défavorable de la Cour suprême pour le président Barack Obama. Cette fois, les 9 juges se sont prononcés sur un aspect de la fameuse loi sur la réforme du système national de santé. La Cour a reconnu aujourd'hui le droit de certaines entreprises à refuser des contraceptifs à leurs employés si cela va à l'encontre de leurs croyances religieuses. Le verdict s'applique seulement aux entreprises appartenant à quelques personnes, donc quand il n'y a pas de grande différence entre l'entreprise et ses propriétaires. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Place maintenant à Sporama, le sport et la Coupe du monde de football en ligne de mire. Jacques Aristide. Oh, 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 oh.
Mille merci Jean-Roger Billon. Et c'est donc parti pour Sporamant ce lundi 30 juin 2014, entièrement dominé bien évidemment par la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Une fois n'est pas coutume, c'est Jacques Aristide qui vous accompagne ce soir. Mais ne vous en faites pas, sont au rendez-vous notre envoyé spécial Nicolas Pineau à Rio de Janeiro et vos chroniqueurs favoris en Afrique, Jules Valentengue au Gabon, Salif Kabore au Burkina Faso et Élisée Ongpati au Bénin, sans oublier vos coups de fil en direct. Affiche alléchante ce lundi, la France se qualifie pour les quarts. Quant au champion d'Afrique, le Nigeria, il rentre au bercail, malheureusement. Toutes les réactions dans un instant, alors que dans une heure, l'Algérie va croiser le fer avec l'Allemagne. L'espoir est-il encore permis pour le continent? On le verra. Analyse et commentaires à venir. Les Bleus de l'équipe de France affrontaient ce soir les Super Eagles du Nigeria à Brasilia pour une place en quart de finale de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Eniyama a fait des miracles, mais les Bleus ont trouvé la faille par Paul Pogba. L'Hexagone s'est donc qualifié dans la douleur. But de Paul Pogba, puis contre son camp nigérian bien provoqué par Griezmann. 2-0, les Bleus joueront vendredi le vainqueur du quart entre l'Allemagne et l'Algérie tout à l'heure. Match qui débute dans une heure à peu près. Alors, ambiance maintenant à Lagos où nous retrouvons Ali Kabré Patiédé. Ali, merci d'être avec nous. Ambiance morose, j'imagine, chez vous.
Oui, c'est une ambiance très morose. Il y a tellement de déception un peu de la part de tous les joueurs, de tous les supporters en fait de Super Eagles ici. C'est une ville vraiment calme et c'est maintenant que les gens commencent à sortir en fait de la ville pour regagner leur maison parce que la ville était complètement morte. Et les gens ont laissé leur boulot et tout le travail qu'ils avaient fait pour pouvoir suivre ce match. En fait, que le match s'est terminé sur une note de déception, eh bien les gens repartent chez eux, ils sont déçus.
Oui, bon, quand même, il faut dire que les Bleus étaient favoris, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Hein. Tout le monde était d'accord sur ce point, comme quoi les Bleus, ils étaient bien, bien meilleurs et que, quelque part, le Nigeria avait toutes ses chances, mais il était fort probable, possible que les Super Eagles soient pris en défaut par les Bleus.
Alors, nous avons également en ligne nos amis. Nous avons Nicolas Pineau en direct du Brésil. Vous êtes à Rio de Janeiro. Vous avez suivi ce match, Nicolas. Le Nigeria, grosse déception.
Nicolas. Et oui, Jacques, on va suivre le match au stade Mané Garrincha de Brasilia. Il est vrai, déception hein, pour incliné 2-0 en première mi-temps, jeu égal avec les Français. Mais petit à petit, les Bleus ont fait cette équipe. C'est Paul Pogba à la 75e minute qui a inscrit le but qui a libéré l'équipe de France. Et en toute fin de match, dans les arrêts de jeu, Joseph Yusson, Nigeria, est tombé, mais le Nigeria est tombé avec les honneurs, Jacques.
Oui, avec les honneurs. Alors Nicolas, l'espoir, je le disais tout à l'heure en titre, est-il toujours permis pour l'Afrique? L'Algérie vise l'exploit contre l'Allemagne. Les Fenech affrontent l'ogre allemand, 8e de finale à Porto Alegre tout à l'heure, dans un match où les surprises sont possibles. Est-ce que c'est vrai? Les surprises sont-elles possibles, Nicolas?
Oui, la Coupe du Monde, tout est possible, Jacques, mais c'est vrai que sur le papier, cette équipe allemande fait forte impression, hein, évidemment, avec une vedette Müller, qui a déjà pris 4 buts dans cette compétition. C'est vrai, j'ai déséquilibré, évidemment. Mais les Algériens peuvent mener la frappe allemande et les Algériens allemands qui se sont affrontés en 82. Il y a une éternité en Coupe du Monde, évidemment. Et l'Algérie l'avait emporté 2, alors le seul répétera-t-elle On verra bien, mais c'est vrai que, en tout cas, les Algériens partent vraiment pour le roi, cher Jacques.
Oui. Nicolas, cher Nicolas, je dois m'excuser auprès de nos auditeurs. La ligne téléphonique, malheureusement, est très mauvaise. Mais je ne sais pas si tout à l'heure nous allons pouvoir régler ça. Peut-être nous allons vous retrouver tout à l'heure, Nicolas. La ligne est très, très, très mauvaise. Mais nous avons également en ligne Jules Valentin-Gouet. Jules, d'abord, je voudrais revenir sur ce match France-Nigeria. Que retenez-vous de ce match?
Oui, il faut dire que les Nigériens ont su empêcher les Français d'évoluer à leur guise en quadrillant très bien le terrain avec un bloc hermétique qui savait monter et descendre ensemble. Et en même temps, ils ont eu leur jeu court a permis de passer facilement le milieu français pendant une grande partie du match. Mais maintenant, c'est devant qu'ils ont pêché parce qu'ils n'ont pas eu des occasions franches et les Français ont usé de leur expérience pour exploiter les coups de pied arrêtés en fin de rencontre.
Déception, mais quand même, comme le disait Nicolas tout à l'heure, le Nigeria rentre au bercail avec les honneurs.
Oui, il rentre avec les honneurs et ce qu'on peut retenir, même pour ce match perdu, c'est que le Nigeria a eu une prestation très honorable, une prestation honorable qui aurait pu peut-être mieux tourner si les grandes équipes n'étaient pas aussi protégées que cela, parce qu'on a quand même pu noter une agression pratiquement de Matuidi à la 55e minute qui aurait pu faire jouer la France à 10 pendant une grande partie du match, tout comme le coup de coude de Giroud furtif et un récidiviste et qui n'est pas rattrapé par la troupe comme Suarez ou alors cette main de la phase de réparation que l'arbitre a estimé coller au corps. Donc, on peut dire que les Nigériens peuvent rentrer au bercail assez fiers d'eux.
Et nous attendons évidemment tout à l'heure le match Algérie-Allemagne. Alors, grâce à son nul face à la Russie partout le 26 juin, l'Algérie s'est qualifiée en huitième de finale pour la première fois de son histoire. Mais reste-t-il tout de même, est-ce que cela c'est un véritable duel de David contre Goliath, d'après vous, Jules?
Oui, ben pas tout à fait. Les grandes équipes, toutes les équipes se tiennent pratiquement parce que les joueurs jouent dans les mêmes championnats. Et on peut noter que les Nigériens et les Algériens, pardon, ont progressé dans un domaine où ils étaient très faibles, c'est-à-dire la présence physique. Les défenseurs algériens sont impressionnants et les joueurs ont gagné sur ce terrain. Ils ont la technique naturelle de toujours la cohésion. Ils ont en plus également gagné sur le plan mental. Ils ne s'énervent plus comme dans le passé. Ils savent gérer le stress ou alors l'enjeu. Donc, je crois que ce sera un match équilibré comme la plupart des autres matchs qu'on a vus.
Alors, messieurs, revivons les matchs du week-end. D'abord, la qualification du Brésil pour les quarts de finale au prix d'une séance de tir au but face au Chili. Tout le Brésil a finalement poussé un ouf de soulagement à la fin de cette rencontre d'une incroyable intensité et d'un suspense à la Hitchcock. Après quoi, la Seleção a éliminé le Chili un partout après prolongation et 3-2 à l'issue de la séance des tirs au but. A-t-on vu un Brésil qui a eu toutes les peines du monde à ne serait-ce qu'avoir le contrôle de la partie, Jules?
Oui, bien sûr. Et c'est un peu également, pour ceux qui connaissent bien disons que un peu l'histoire cachée du football, ils doivent savoir que sur le banc de touche brésilien se trouvent les deux entraîneurs les plus critiqués au Brésil dans l'histoire du football brésilien. Ils n'aiment pas produire le jeu, ils préfèrent être très réalistes. Le plus souvent avec eux, le Brésil, et qui était toujours l'équipe qui amenait le spectacle dans la compétition, le Brésil ne fait rien au niveau du spectacle, mais il gagne le trophée. Donc Carlos Alberto Pereira, qui a gagné donc en 1994, et Scolari, qui a gagné en 2002. C'est les plus mauvais Brésil dans le jeu, mais ce sont des champions du monde. Donc il faut faire attention, les grandes équipes à l'image de l'Italie par exemple, démarrent souvent difficilement, mais par la suite, elles finissent bien.
Oui, d'accord. Et ma autre match samedi dernier, donc j'aurais aimé revenir là-dessus. Je ne sais pas si Nicolas est toujours avec nous. Alors, la Colombie a dominé l'Uruguay 2-0, trop limité, et s'est qualifié pour le premier quart de finale de son histoire. James Rodriguez, auteur d'un doublé, le numéro 10 colombien, a pris avec classe la tête du classement des meilleurs buteurs du mondial avec 5 buts. Grâce à sa nouvelle idole, la Colombie ira défier le Brésil ce vendredi 4 juillet à Fortaleza. Un beau baptême de quart de finale. Le jeu d'équipe des Cafeteros concocté par José Peckerman a brisé une céleste à qui Luis Suarez a trop manqué. Alors avec en plus un joueur sur un nuage, la Colombie peut-elle rêver de bousculer un Brésil bien moins chatoyant contre le Chili, Nicolas ?
Ah, tout à fait, Jacques, et on doit aussi souligner que la Colombie, hein, qui compte évidemment un grand absent de marque, c'est évidemment Falcao, le joueur qui s'est blessé, qui n'a pas pu être rétabli pour cette Coupe du Monde. Et vous l'avez dit, avec James Rodriguez, auteur de 5 buts, cette équipe colombienne est attrayante et elle va beaucoup plus que poser des difficultés à une Seleção, une équipe du Brésil, en demi-teinte évidemment. Et ça va être beaucoup plus difficile, hein, pour les hommes de Luis Felipe Scolari sur cette partie que lors du Chili, car les atouts offensifs de la Colombie sont d'un autre niveau. Alors c'est vrai que le Brésil a Neymar la star, Neymar qui n'a que 22 ans, Neymar qui sera peut-être absent, hein, il est touché à la cuisse, mais en tout cas c'est vrai que le Brésil déçoit ici les Brésiliens, mais tout le monde veut y croire car la Coupe du Monde se passe évidemment sur leur terre.
Et Jules, vos sentiments à ce propos ?
Bien sûr, en plus il y a un facteur qui va également jouer, c'est un derby. C'est un derby en Amérique latine. Pendant toute cette Coupe du Monde, pratiquement, et les équipes jouent les derbies. Et donc, dans ces conditions, ce sera un match qui aura, où la pression va énormément jouer, et malheur à celui qui prendra le premier but.
Dimanche, hier, les Pays-Bas, quant à eux, ont arraché leur qualification pour les quarts en battant le Mexique 2-1 au terme d'un match renversant. Les Néerlandais, qui étaient menés 1-0 à 2 minutes de la fin de la rencontre, l'ont finalement emporté 2-1. Les Pays-Bas ont-ils trouvé in extremis les ressources nécessaires pour renverser le match et l'emporter face au Mexique en 8e, Nicolas ?
Évidemment, hein, ils étaient menés 1-0 jusque dans les 5 dernières minutes. Alors, évidemment, il y a eu d'abord Schneider, hein, qui a décoché une frappe terrible pour égaliser. Puis il y a ce pénalty, les Mexicains, hein, qui crient au scandale et qui disent qu'il n'y a pas pénalty. En tout cas, les Oranges se sont défaits de l'adversaire mexicain. Et c'est peut-être aussi ça la force des grandes équipes, hein. Parfois, il y a un tout petit peu de réussite, même dans l'adversité. En tout cas, sur les atouts offensifs, on voit mal dans cette Coupe du Monde, peut-être à part l'Allemagne, qui pourrait vraiment déranger cette équipe hollandaise. En tout cas, les Mexicains n'ont pas démérité. Et Jacques, statistique terrible pour les Mexicains. C'est la sixième élimination en huitième de finale de suite. Ça fait 6 Coupes du Monde que les Mexicains passent la phase de poule, mais qu'ils n'arrivent pas à aller en quart de finale.
Eh ben oui, à chaque fois depuis 1994. Jules, s'agissait-il d'un scénario plutôt cruel pour le Mexique ?
Oui, un scénario cruel quand on voit surtout la qualité de l'équipe mexicaine qui était dans cette Coupe du Monde. N'oublions pas que c'est les champions olympiques, l'ossature des champions olympiques qui ont brillé devant le Brésil pendant la finale des Jeux olympiques à Londres. Mais il y a également le fait que les Mexicains ont peut-être utilisé leur talent avec parcimonie. Ils étaient un peu trop sûrs d'eux après le but. Je crois qu'ils auraient pu faire la différence. Et du côté hollandais, les Hollandais ont su et toucher là où il fallait toucher. C'est-à-dire dans le jeu aérien, les coups de pied à arrêter, les coups de pied de coin, où ils baladaient un peu la défense mexicaine dans les airs. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas. L'entraîneur a fait entrer Untelar à la place de Van Persie. Untelar est très souverain dans les airs et c'est de lui qu'il est dans tous les coups qui renverse le match d'ailleurs en fin de partie.
Et je le rappelle, les Néerlandais, finalistes du dernier mondial, affronteront en quart de finale le Costa Rica ce samedi 5 juillet. Et voilà, messieurs, vous restez avec nous. Nous vous retrouvons après cette petite pause. Merci d'être à l'écoute de La Voix de l'Amérique, Sporama, spécial mondial Brésil 2014 évidemment. Nous sommes rejoints maintenant également par Élisée Oumpati à Boïcon au Bénin. Merci d'être avec nous. Revenons sur la rencontre France-Nigeria. Comment est-ce qu'on a suivi ce match chez vous, Élisée ?
Un match très plaisant. D'ailleurs, bonjour à tout le monde. Un match très plaisant. C'est vrai que les Français ont trop respecté les Nigériens, ce qui est évident puisque le Nigeria ne s'est pas retrouvé là par hasard. Et les Français n'ont pas du tout inquiété cette équipe nigériane bien organisée. Un coup de chapeau d'ailleurs à son sélectionneur Stephen Keshi qui a fait un travail remarquable. Maintenant, à ce niveau de compétition, il ne faut pas, permettre à l'adversaire de profiter de ses erreurs, ce qu'on a vu. Et là, si déjà le but de Munique a été validé, on aurait pu assister à un tout autre rencontre. Hein. Voilà, l'arbitre, le seul maître du terrain, on a assisté à un très, très bon match. Vincent Enyema qui est passé complètement à travers ce qu'on est, ce qui a profité à Pova. C'est un match très suivi ici, hein, à Boïcon, surtout qu'il y a une forte communauté nigériane ici, très déçu hein, après cette défaite, mais très heureux par rapport à la prestation des Nigérians cet après-midi.
Oui, déception, mais également content de leur prestation. Hein. On parlait également du match tout à l'heure, Allemagne-Algérie. L'Algérie qui affronte donc l'Allemagne pour son premier huitième de finale de Coupe du Monde. L'Allemagne part-elle favorite, forcément ?
Largement favorite, hein, il faut le préciser, même pour le titre final de cette compétition par rapport à la prestation de ces Allemands, par rapport aux joueurs, hein, sélectionnés par Joachim Lahoud, des joueurs très expérimentés. Maintenant, la pression est énorme hein, du côté des Allemands. Les Algériens vont jouer sans complète. Éliminé par l'Allemagne, il ne voit rien dire hein, du côté de Blida ou encore d'Alger. Maintenant, les Allemands doivent tout faire pour remporter ce match. Donc, ils ont une énorme pression. Côté algérien, on doit profiter, jouer libéré et surtout être réaliste, hein, parce que c'est ça, les Algériens n'auront pas beaucoup d'occasions et à la moindre erreur côté allemand, il faudra profiter pour marquer. Je vois un match équilibré entre les deux équipes, c'est vrai, ce sera un match dominé par les Allemands. Je le dis une fois encore, les Algériens doivent profiter des erreurs, des miettes d'erreurs, puisque les Allemands ne vont pas commettre beaucoup d'erreurs. Et à moins d'erreurs, les Algériens doivent profiter et être surtout réalistes hein, dans la surface de réparation s'ils veulent nécessairement battre cette équipe allemande, hein, plus que jamais favorite.
Mmh. Alors, figurez-vous que j'ai fait une petite recherche. Alors, j'ai trouvé que les Fennec ont d'ailleurs déjà battu la Nationalmannschaft en Coupe du Monde lors de son premier match dans la compétition pendant la phase de groupe de 1982 2-1 Nicolas, alors évidemment c'était tout à fait autre chose, c'était une toute autre équipe, mais on veut croire quand même, n'est-ce pas, pour l'Afrique?
Eh oui, hein, tout le monde est superstitieux, évidemment, vous l'avez dit, c'était une autre époque. Hein. Mmh. À l'époque, il y avait même encore le mur de Berlin, alors on s'en souvient, ils l'avaient emporté 3-2. Mais les Algériens, après, avaient été éliminés. Ils avaient accusé les Allemands et les Autrichiens de s'être entendus pour qualifier justement l'Autriche. Et justement, les Algériens auront peut-être à cœur de laver l'affront d'il y a évidemment 32 ans. Mais surtout, l'enjeu peut-être de ce match, c'est aussi le Ramadan qui s'est invité dans cette compétition. On sait que le Ramadan a commencé pour les musulmans. Il y a une polémique en Algérie, Isaac, puisque certains journaux accusent le sélectionneur Vahid Halilhodžić d'encourager ses joueurs à ne pas faire le ramadan. On sait que parfois au sport de haut niveau, c'est difficile de respecter le jeûne. Le sélectionneur des Algériens hier s'est énervé hein, en conférence de presse. Il a évidemment rejeté cette polémique. Pour lui, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et donc, on va observer en tout cas si ça joue sur les organismes.
Hein. J'aurais également voulu parler du Costa Rica. Le Costa Rica qui était aux prises avec la Grèce dans l'autre rencontre de la journée dominicale pour le compte des huitièmes. Autre match à suspense, et bien aussi inattendu l'un que l'autre à ce niveau de compétition. Le Costa Rica et la Grèce se sont livrés à un duel de survivants et ce sont donc finalement les Costa Ricains qui ont décroché le deuxième billet qualificatif pour les quarts de finale. Vainqueur des Grecs au tiers au but, 5-3. Les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 1 partout à la fin de la prolongation. Les Centra-Américains ont joué à 10 pendant près d'une heure après l'exclusion de Duarte pour un second carton jaune. C'est Oumana qui a inscrit le tiers au but libérateur juste après un échec de Gekas face au gardien Navas, un des héros de la soirée. Le Costa Rica était lui tout simplement condamné à ce moment. Cette qualification costaricaine s'inscrit-elle dans la foulée de la qualification à rebondissement au mondial brésilien ? Nicolas ?
Oui, tout à fait. Et surtout, Jacques, on va noter, hein, c'est historique, hein, puisque c'était le deuxième huitième de finale de l'équipe costaricaine. Ils avaient perdu, évidemment, 4-1 contre la Tchécoslovaquie à l'époque. Et là, actuellement, c'est la première fois qu'ils se qualifient pour des quarts de finale. Les Grecs, une nouvelle fois, n'ont pas démérité. Ils ont même un petit peu effrayé tout le monde, évidemment, en revenant au score et en égalisant. Alors, cette équipe costaricaine est très, très étonnante. Maintenant, le quart de finale contre les Pays-Bas, ce sera pas du tout la même chose, évidemment. On va attendre de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est bien que cette zone CONCACAF nous donne des belles surprises avec les États-Unis, le Mexique. Il y a une belle présence, évidemment, de l'Amérique centrale et de cette zone CONCACAF sur cette Coupe du Monde. Et on voit hein, que les cartes sont redistribuées avec deux équipes africaines, trois équipes de la zone CONCACAF. Ça fait vraiment plaisir. Cette Coupe du Monde est plus ouverte que jamais, Jacques.
Hein. Oui, j'aurais aimé donc revenir sur les autres matchs à venir. Jules, il y a l'Argentine et alors l'Argentine contre la Suisse. L'Argentine part-elle favorite de son huitième de finale demain soir?
Bien sûr, on serait tenté de le dire au vu des forces en présence, surtout des individualités sur le terrain. Mais il faut savoir que les Suisses qui ont un peu été ridiculisés par les Français auront à cœur d'améliorer leurs prestations et surtout sont dans une opposition de style qui peut gêner grandement les Argentins. Les manières de ballon qui, en quelque sorte, vont attirer aussi les tibias des joueurs suisses très physiques. Bon, donc, dans ce genre de rencontre, c'est celui qui impose son style et qui finalement tire les marrons du feu.
Mmh. Élisée, l'Argentine n'aura-t-elle pas le droit à l'erreur demain? Alors, je ne sais pas si...
Un match pas totalement facile hein, pour les Argentins qui ont beaucoup d'individuels, des joueurs très forts individuellement, j'allais dire. Maintenant, côté Suisse, il ne faut pas sous-estimer cette équipe qui, quand même, sait comment jouer face à ces grandes formations, c'est vrai. Battue par la France en match de poule, mais c'est un autre match. Cette fois-ci, ce sont des rencontres à élimination directe. Donc, attention, 1-0 à 0 après 120 minutes de jeu pourrait faire qualifier les Suisses et après les séances des tirs au but. Donc, les Argentins doivent se méfier énormément de cette sélection suisse.
Oui, autre match demain soir à Belgique, États-Unis. Voir la Belgique en quart de finale n'est pas franchement une surprise. L'identité de son adversaire, en revanche, en est une. Les États-Unis sont en effet brillamment sortis d'une poule où se trouvaient tout de même l'Allemagne et le Portugal. Nicolas, la Belgique comptera-t-elle une fois de plus peut-être sur Eden Hazard pour faire la différence, d'après vous?
Oui, Eden Hazard ou d'autres joueurs. La Belgique qui a engrangé évidemment les 9 points lors du premier tour, mais ça s'est toujours fait un petit peu dans la douleur, Jacques, hein, et on a évidemment Jürgen Klinsmann, le technicien des Américains, qui va certainement observer cela. Je pense qu'au niveau impact physique, légère supériorité des Américains, mais c'est vrai qu'au niveau technique, les Belges hein, ont un ton d'avance, et vous l'avez dit avec Eden Hazard, notamment le joueur de Chelsea, mais ce quart de finale m'apparaît plus ouvert hein, que les autres, en raison notamment de cette spontanéité des Américains et de leur capitaine Patrick Dempsey à pouvoir renverser certaines situations. Les Américains qui avaient malmené les Ghanéens, qui avaient malmené les Allemands. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus ouvert qu'il n'y paraît.
Voilà, il nous reste 2 minutes à terminer. J'aurais aimé parler de cet article publié aujourd'hui sur notre site. Un article signé Jean-Louis Ntong, VOA Brésil 2014, football.lavoixdelamérique.com. La meilleure équipe africaine est-elle la France? Qu'en pensez-vous, Nicolas?
Ouais, un article qui fera plaisir évidemment à tous les extrémistes en France. Ouais, c'est vrai qu'il y a des joueurs d'origine dont les parents sont nés en Afrique, mais moi je ne m'étendrai pas beaucoup plus là-dessus.
Oui, Jules.
Et disons qu'on en parle depuis 1990 avec l'équipe bleu-blanc et beurre. Et donc, blanc, black, beurre, voilà. Mais donc, c'est pas une nouveauté, mais il faut le dire, Pelé le disait dans les années 60, que l'Afrique serait sur le toit du monde, et certains ont dit que c'est en 90, c'est l'Afrique qui a gagné la Coupe du Monde. En fait, la polémique continue.
La polémique 98, continue.
Oui, voilà.
La polémique continue. Jean-Louis Ntong qui écrit que voilà, on retrouve une équipe de France constituée de nombreux ressortissants africains, notamment des joueurs originaires du Sénégal, d'Algérie, du Mali et du Congo. La France, d'après lui, est après l'Algérie, l'équipe avec le plus d'immigrés sur le terrain. Alors, pour terminer, Élisée.
France a toujours joué avec des joueurs africains, Raoul Diagne, Maric, en passant par les joueurs comme Maritz, Trésor, Alain G... et l'autre, Zinedine Zidane, hein, pour citer ceux-là, de très grands joueurs d'origine africaine. C'est-à-dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et si les Français peuvent gagner la Coupe du Monde avec ces joueurs africains, cela sera un plaisir, un énorme plaisir à ce continent.
Voilà, messieurs, je vous remercie. Nicolas Pineau, qui était en direct du Brésil, Jules Valentin Gouet, Salif Kabore, en fait Salif n'était pas avec nous, Élisée Oumpati plutôt, à Boïcon au Bénin. Voilà, merci messieurs, Jacques Aristide avec vous, et Lionel Gaïma était à la réalisation. À très bientôt.